Tu t'ennuies ?
Tu sais pas quoi faire.
T'as qu'à écouter les super chroniques des bibliothécaires
de Bourg-en-Bresse.
C'est un mercredi par mois
à 7h30, 8h30 et 12h30.
Sur Radio B, bien sûr.
Bon, tu nous as ratés ?
Pense au podcast. Oui. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, c'est l'heure de retrouver les bibliothécaires. Hein. Bon gré, mal gré, on fait ce qu'on peut. Hein.
Il est en pleine forme.
Aujourd'hui, on est avec Géraldine qui va nous présenter un roman jeunesse, Claudie qui va nous présenter un roman, Anne qui va nous présenter de la musique comme d'habitude,
bah oui,
mais de la musique tatapoum.
Et
bon,
oui,
ben,
tatapoum.
On verra ce que c'est. Et moi qui vais vous présenter un film. On va commencer par moi, tiens. Aujourd'hui, on part à l'Est. On s'enfonce dans la Bulgarie profonde, sauvage, mais bien d'aujourd'hui. Je vais vous parler de Western, de Valeska Grisbach. Voici le tableau. Une équipe de travailleurs allemands échoue à la frontière gréco-bulgare pour un chantier pharaonique en pleine nature, tout au bout de la civilisation. Les travaux traînent, les fournitures n'arrivent pas, les travailleurs s'ennuient dans ce bout du monde, étrangers sur ces terres de cocagne écrasées de chaleur. Nous suivons alors Ménard, grand, maigre, le visage taillé à la serpe, moustache fière, clope vissée au coin des lèvres. Son œil bleu, glacial, n'est pas si froid, mais ses traits sont durs, et dans son calme et son assurance, on peut lire et supputer de lourdes histoires. Toute une attitude distante et fière qui va tout à fait coller à son attitude très solitaire, presque sauvage. Pour preuve, il rencontre un cheval en pleine nature, lente scène d'approche, puis il le monte à cru et rentre au camp, indifférent du regard étonné de ses collègues. L'ennui pesant et son esprit d'aventure vont le pousser à se rendre dans le village le plus proche. Il va alors rencontrer toute une communauté que le physique, le langage et les mœurs séparent de ces teutons perdus et que Ménard va tenter de côtoyer bon gré mal gré. Comme le laisse entendre le titre de ce film, tous les ingrédients se mêlent pour former un western peu commun. Un cow-boy solitaire, un duel tout en longueur entre notre héros et le chef d'équipe, une femme à conquérir, un village et une population étrangère entre guillemets. Est-ce que ce ne seraient pas des Indiens cachés sous les traits des Bulgares ? Un paysage et une ambiance de bout du monde, une chaleur écrasante, une tension sourde et lente. Mais le tout, ô combien moderne, et sortant des sentiers battus. Ce paysage de rêve, de nature, éloigné, presque complètement oublié du monde contemporain, n'est montré que par des petites touches, sans longueur exagérée, par les yeux des personnages et surtout de Ménard qui s'y perd en mélancolie silencieuse. Mais ce qui fait le sel de ce film, le détail un peu secret, qui en fait un petit chef-d'œuvre, c'est de découvrir que tout, entièrement tout, le film a été construit au fur et à mesure du scénario au tournage en s'appuyant sur des amateurs, des lieux de circonstances, découverts par hasard, par opportunité, tout au long de la construction de l'œuvre. Chacun des membres de l'équipe allemande de terrassiers sont tous réellement du métier, la plupart ayant répondu à l'offre de tournage par hasard, défi ou pari. Le village bulgare a été choisi par hasard lors de repérage et les acteurs du village entier sont les habitants du village eux-mêmes. Même les personnages principaux bulgares. Et le plus fort encore, jour après jour, c'est que, en tournant des scènes de quotidien, de mélange entre tous ces éléments, c'est à ce moment-là que l'intrigue et les événements du film ont pu décanter et l'histoire se révéler. Pour ma part, ayant découvert ce détail après mon visionnage, j'en fus transporté tellement les acteurs réussissent à donner le change dans leur naturel et dans l'orchestration de la mise en scène. Un vrai gageur réussi avec brio. Le mélange surréaliste de cette ambiance western ajoutée à ce casting amateur en font un ovni exceptionnel, flambant d'originalité. Et donc, si vous vous sentez l'âme voyageuse, l'envie de grands espaces sauvages, tel Ménard le cow-boy solitaire de ce film, n'hésitez pas à marcher dans ses pas en retrouvant le film Western de Valeska Grisbach, d'ores et déjà disponible dans les bacs de la médiathèque Vaillant. Géraldine.
Bonjour à tous. Joyeuse Pâques et bon Noël. Bah oui, je suis dans le thème ou presque, non. Bon. Joyeuse Pâques et bon Noël, c'est le titre du court roman que je vous présente aujourd'hui. Il y avait un certain temps que je n'avais plus rien lu d'Hubert Ben Kemoun. Je sais qu'il écrit des histoires très variées et qu'en général je les apprécie beaucoup. Et bien pourtant, je ne m'attendais pas à être happée par l'émotion à la fin de ce texte. À dire vrai, si je me suis lancée dans la lecture de ce roman, c'est parce qu'il appartient à la collection Petite Poche, éditée chez Thierry Magnier, et que cette collection Petite Poche, à mes yeux et pas seulement, est une mine d'or de textes forts, faciles à lire et très courts. un petit format qui tient dans la poche, comme son nom le laisse deviner, un texte écrit gros, des couvertures graphiques, gaies, élégantes, une mise en page qui prend en compte le rythme de lecture. Voici une collection qui est réellement pensée pour permettre à tous les lecteurs de savourer ces courts romans. Tous les lecteurs, enfants des 10 ans, ados, adultes, lecteurs débutants, ça fonctionne. Dans ce texte donc, on découvre Barnabé. Barnabé a 11 ans et il part seul passer 4 jours chez sa grand-mère. On ne saura pas pourquoi, c'est d'ailleurs un peu incompréhensible pour moi, sa grand-mère ne l'a pas vu depuis 5 ans. Barnabé part à contre-cœur, dans cette vieille maison dans laquelle il n'y a même pas internet, un village où il est sûr de s'ennuyer, et sitôt qu'il est arrivé, il n'a plus qu'une idée en tête, trouver le moment propice pour s'enfuir. D'autant que sa grand-mère, à peine l'a-t-elle retrouvé, le tâte, ouvrez les guillemets, comme s'il était un camembert attrapé sur l'étalage et qu'elle voulait vérifier s'il était à point pour le déguster. Et la voilà, qui lui cuisine une belle galette des rois. Et le lendemain, elle fête Pâques, puis son anniversaire, et même Noël. Rien n'est oublié, ni le cadeau et surtout pas le sapin décoré. Bon, le tout en l'espace de 4 jours et en plein mois de juillet. Bon, mais est-ce pour autant qu'elle a perdu la tête, cette grand-mère ? Moi, je crois bien que si nous avons acheté ce livre en bibliothèque, c'était peut-être bien parce qu'on pensait qu'il parlait de la maladie d'Alzheimer ou de quelque chose d'approchant. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit d'un texte qui traite des relations intergénérationnelles. Dans ce texte, la volonté presque désespérée de la grand-mère est mise en exergue, cette volonté de rattraper le temps qu'elle n'a pas passé avec son petit-fils. Le portrait des deux protagonistes est finement ciselé au fil des pages. On découvre un adolescent dans un premier temps méfiant à l'égard d'une grand-mère étrange, qui, elle, a bien entendu de la tendresse à revendre. Ce texte ne laisse pas indifférent et il offre une belle opportunité de méditer dessus en famille. Les enfants y verront peut-être avant tout le côté amusant de l'histoire, mais je leur fais confiance, je ne doute pas que ça parlera aussi à leur cœur. Je vous invite à découvrir ce court roman d'Hubert Benkemoun, Joyeuse Pâques et Bon Noël, ainsi que la belle lettre que cette fantasque grand-mère envoie à son petit-fils et qui éclairera un petit peu son étrange comportement. Voici un roman empli de sentiments beaux et forts, un roman qui respire la simplicité et la sincérité, un condensé d'amour filial, de bonheur et de petits bonheurs du quotidien. Bref, ne vous privez pas de ce plaisir. Comme vous aimez à vous faire plaisir avec une orangette, par exemple, oui, j'ai l'humeur gourmande en ce moment. Foncez, faites-vous plaisir, c'est un petit roman que vous découvrirez à la médiathèque Vaillant. Et puis, après cette incursion en littérature jeunesse, eh bien, je laisse la parole à Claudie, qui vous emmène en littérature pour les grands.
Merci Géraldine. Eh bien, bonjour à tous. Pourquoi pas aujourd'hui traverser la Manche, malgré le Brexit, et aller à la rencontre de Julian Barnes, auteur britannique, qui vient de sortir son dernier roman, La seule histoire. Mais tout d'abord, chers auditeurs, écoutons-le. Un premier amour détermine une vie pour toujours. Il n'occupe pas forcément un rang supérieur à celui des amours ultérieurs, mais elles seront toujours affectées par son existence. Il peut servir de modèle ou de contre-exemple. Il peut éclipser les amours ultérieurs. D'un autre côté, il peut aussi les rendre plus faciles, meilleurs. Mais parfois aussi, un premier amour cautérise le cœur et tout ce qu'on pourra trouver ensuite, c'est une large cicatrice. Julian Barnes porte dès le début de son roman une interrogation qui nous concerne tous, qui vous concerne tous. Préféreriez-vous aimer davantage et souffrir davantage ou aimer moins et moins souffrir ? C'est, je pense, finalement, la seule vraie question. Chers lecteurs, à vous de choisir. Le narrateur du roman a-t-il vraiment choisi ? Paul, jeune étudiant de 19 ans, décide de s'inscrire au club de tennis de sa ville avant de partir à l'université. Il y rencontre Suzanne, 48 ans, mariée et deux grandes filles. Voici un court extrait de ce roman. Le fait qu'elle était assez âgée pour être ma mère n'était pas vu d'un bon œil par ma mère, ni mon père, ni mon mari, ni ses filles, ni l'archevêque de Canterbury, non pas qu'il ait été un ami de la famille. Je ne me souciais pas plus d'approbation que d'argent, mais la réprobation active ou théorique, ignorante ou informée, ne faisait qu'enflammer, corroborer et justifier mon amour. Je n'avais pas de nouvelle définition de l'amour. Je n'examinais pas vraiment ce qu'il était, ni ce qu'il pouvait impliquer. Je me soumettais simplement au premier amour dans tous ses aspects, des « caresses avec les cils », entre guillemets, à l'absolutisme. Rien d'autre ne comptait. Bien sûr, il y avait le reste de ma vie, présent, mes études en cours et futures, emploi, salaire, position sociale, retraite, pension, mort. On pourrait dire que je mettais cette partie de ma vie en suspens, sauf que ce n'était pas vrai. Suzanne était ma vie, et le reste ne l'était pas. Toute autre chose pouvait et devait être sacrifiée, délibérément ou non, si et quand il le fallait. Quoique sacrifice implique une perte. Or, je n'ai jamais éprouvé un sentiment de perte. Le narrateur essaie de reconstituer par l'intermédiaire de sa mémoire, qu'il sait forcément très sélectif, sa première histoire d'amour. Il fait des allers-retours entre ces différentes époques de sa vie et décrit de manière sensible tous les impacts que cette histoire a laissés sur lui, ces traces que l'on n'efface jamais et qui ont déterminé le chemin de sa vie. C'est tout juste un roman très émouvant, très lucide et plein de profondeur que je vous conseille avec beaucoup de chaleur. Je vais laisser maintenant la parole à Anne pour Tapapoum.
Bon, allez, un petit truc pour se réveiller. Merci. Bon, voilà, je vous ai tous bien traumatisés pour aujourd'hui, mais c'est pas tout à fait fini car j'ai plusieurs nouvelles à vous annoncer. Déjà, le grunge n'est pas tout à fait mort. Pourquoi ? Parce que, et c'est la deuxième nouvelle du jour, Meudonnet est toujours vivant. Meudonnet est un groupe de Seattle né il y a 30 ans, en même temps que la médiathèque Vaillant, dis donc, dans le même mouvement Nirvana, Sonic Youth, déjà un peu plus vieux, et j'en passe, œuvrait déjà. Là où certains groupes se sont séparés, arrêtés ou simplement sont passés à autre chose, Meudonnet a choisi une ligne et aujourd'hui encore avec Digital Garbage, le titre de l'album, il s'y tient encore et toujours. Alors vous allez me dire, Meudonnet a une ligne. Et c'est quoi donc cette ligne ? Eh bien, elle est assez simple. Batterie, guitare, basse et chant. Bon, après avec des autres petits trucs qui se rajoutent aussi un petit peu, mais ça tape, ça va vite. C'est bref, mais intense. Alors, le chant étendu, cria. Voilà, c'est simple, concis, direct. L'idée n'est pas ici de proposer une œuvre d'art irréprochable ou un chef-d'œuvre novateur dans l'histoire de la musique. Les premiers fans regretteront même les premiers albums du groupe, mais pour Meudonnet, la question n'est pas là car il y a urgence. Kill yourself blind. You'll never be more famous. You'll never be more popular. Everyone will be watching on their little screens. Direct, c'est le premier mot qui convient pour décrire cet album qui, dans chacun des 11 morceaux, pointe le délitement nauséabond auquel le groupe dit assister dans son pays d'origine, les États-Unis. Les titres des morceaux, au cas où l'on s'attend encore à de la musique de chambre, sont pour le moins évocateurs. Neanderfuck, Next Mass Extinction, Kill Yourself Live, Please Mr. Gunman. Le titre même de l'album Digital Garbage évoque ce que l'on peut trouver de plus infâme, garbage étant sensiblement plus grossier, sur les réseaux sociaux. Et tout y passe dans cet album où l'urgence et l'exaspération devant un constat désespérant se ressent à chaque coin de riff. Racisme, tuerie de masse, course inconsciente au profit, à l'enrichissement, crispation religieuse, armes, harcèlement sexuel et mouvement MeToo, la liste est loin d'être terminée. L'idée de me donner ici est que cet album soit oubliable et démodé le plus vite possible, car cela voudrait dire que son propos n'a plus lieu d'être et qu'enfin peut-être il y aurait un espoir, c'est tout le mal que l'on leur souhaite. Et on se quitte avec Prosperity Gospel et joyeuses fêtes, bien sûr. Voilà, et donc c'est la fin des chroniques des bibliothécaires de Bourg, c'est aussi la fin de l'année, donc passez bien à 2019 et à l'année prochaine, bien sûr.
Bonne fête à tout le monde.
On se retrouve en 2019.
Ciao.
Ciao.
Au revoir tout le monde.